Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le syndrome de Turner et plus particulièrement l'aspect gynécologique de cette maladie rare. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Sophie Christin-Maître. Professeur Christin-Maître, bonjour.
Bonjour.
Professeur Christin-Maître, vous êtes endocrinologue, professeur des universités, praticien hospitalier et chef du service d'endocrinologie, diabétologie et endocrinologie de la reproduction à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous êtes également responsable du centre de référence des maladies endocriniennes de la croissance et du développement, le centre constitutif de l'hôpital Saint-Antoine sous l'égide de la filière Firindo. Alors, professeur Christin-Maître, on aborde aujourd'hui les conséquences gynécologiques du syndrome de Turner. Pour débuter notre entretien, est-ce que les patientes concernées peuvent avoir leurs règles naturellement ?
Donc, les patientes qui ont un syndrome de Turner, dans environ 20% des cas, peuvent avoir leurs règles de manière naturelle. Il faut cependant savoir qu'au sein des ovaires, chez ces patientes, il existe une accélération de la perte des follicules. Cette perte folliculaire, elle est due à un phénomène appelé apoptose ou mort cellulaire programmée, qui fait que cette apoptose, elle est naturelle chez toutes les femmes, et à la naissance, le maximum des ovocytes et donc des follicules est d'environ 1 million, et ce chiffre baisse à travers le temps. Dans le syndrome de Turner, cette baisse commence dès la vie intra-utérine et si elle est extrême, eh bien, une enfant avec un syndrome de Turner n'aura pas de développement mammaire et pas de règles de manière naturelle. Donc, environ 20% auront des règles naturelles, mais il faut savoir que 95% des femmes avec un syndrome de Turner vont avoir ce que l'on appelle une insuffisance ovarienne prématurée, c'est-à-dire qu'avant l'âge de 40 ans, elles auront une aménorrhée avec une FSH élevée, supérieure à 25 unités internationales par litre, et un taux d'estradiol bas.
Et une grossesse est-elle possible chez ces patientes ?
Alors, chez ces patientes, la grossesse obtenue de manière naturelle, elle est possible, mais elle reste rare. C'est environ 7% des femmes avec un syndrome de Turner qui vont pouvoir avoir une grossesse naturelle. La majorité des femmes avec un syndrome de Turner, si elles souhaitent une grossesse et que leurs ovaires sont en insuffisance ovarienne prématurée, elles vont devoir bénéficier de ce que l'on appelle la procédure de don d'ovocytes. Et donc, avant de bénéficier de cette procédure, il est très important de faire un bilan, en particulier cardiovasculaire, pour être sûr qu'il n'existe pas une dilatation aortique, car la dilatation aortique peut s'aggraver pendant la grossesse et donner des événements graves, puisque deux décès ont été décrits en France ces dernières années chez des femmes avec un syndrome de Turner, l'une au moment de l'accouchement et l'autre un mois après l'accouchement. Donc la grossesse, oui, elle est possible, mais elle doit être préparée. Et donc, il est souhaitable que le dossier soit discuté en réunion pluridisciplinaire pour donner un feu vert vis-à-vis de cette grossesse. Et surtout, la surveillance pendant la grossesse est importante. Il faut faire des échographies cardiaques, bien sûr doser la glycémie, bien vérifier la tension artérielle, car ce sont des grossesses qui sont quand même un peu risquées.
Et d'un point de vue plus général, quelle est la prise en charge gynécologique de ces patientes ? Est-ce que les patientes non réglées, notamment, reçoivent un traitement hormonal ?
Alors, les patientes qui sont en aménorrhée, il faut bien sûr vérifier que c'est dû à l'insuffisance ovarienne prématurée parce que certaines femmes peuvent avoir une aménorrhée d'autres causes. Mais si elles ont l'insuffisance ovarienne prématurée, il est très important qu'elles bénéficient d'un traitement hormonal substitutif. Et il faut bien leur expliquer l'importance du traitement estrogénique. Donc les estrogènes, soit par voie orale, soit par voie transdermique, qui vont permettre une bonne imprégnation estrogénique, parce que si on laisse la carence, eh bien elles vont avoir des altérations cutanées sous forme de vieillissement accéléré, une ostéopénie, voire une ostéoporose, et une femme jeune qui est en carence en estrogène augmente son risque cardiovasculaire, donc augmente le risque de faire un infarctus plus tôt. Donc il est très important chez ces patientes de leur donner ce traitement hormonal substitutif jusqu'à un âge environ de 50-51 ans, l'âge moyen de survenue de la ménopause. Donc, ces patientes, il faut qu'elles soient bien motivées pour prendre ce traitement qui, dans la balance bénéfice-risque, est très, très en faveur des bénéfices.
Et quel est le suivi gynécologique à proposer à ces patientes, professeur Christin Maître ?
Alors, chez ces patientes, il est important de réaliser le suivi gynécologique classique. Il est important de les rassurer vis-à-vis de ce traitement hormonal substitutif. En effet, ce traitement, lorsqu'il est donné chez des femmes jeunes, n'augmente pas le risque de cancer du sein. Donc, il n'est pas nécessaire de faire des mammographies à un âge plus précoce que celui de la population générale. Donc, il est important de bien motiver ces patientes vis-à-vis de la prise du traitement hormonal. Et dans le cadre de ce suivi, de réaliser des ostéodensitométries environ tous les 5 ans qui vont pouvoir vérifier que la masse osseuse est bien satisfaisante.
Alors, on arrive à la fin de notre entretien, professeur Christin Maître. Pour conclure, quel est l'état de la recherche concernant l'aspect gynécologique du syndrome de Turner ?
Alors, il y a beaucoup de recherches sur le syndrome de Turner parce que jusqu'à il y a quelques années, ce syndrome était considéré comme un syndrome concernant les enfants. Et c'est vrai que l'âge moyen du diagnostic est aux alentours de 8 ans en France, mais il est possible de faire le diagnostic de syndrome de Turner plus tard dans la vie. Chez des femmes qui ont une insuffisance ovarienne prématurée, mais aussi des fausses couches à répétition ou une infertilité. Et donc, le cariotype qui fait partie de ce bilan d'infertilité permet parfois, à l'âge adulte, de faire un diagnostic de syndrome de Turner. Dans la majorité des cas, cette femme est de petite taille. Mais il faut bien prendre en considération, bien sûr, la taille des parents, parce qu'il existe des femmes avec un syndrome de Turner qui ont une taille aux alentours de 1m60, 1m65, sachant que la majorité des femmes avec un syndrome de Turner, leur taille est plutôt aux alentours de 1m55. Donc, une petite taille avec une insuffisance ovarienne prématurée doit amener à penser au syndrome de Turner. Et donc, les recherches, elles sont beaucoup pour essayer de comprendre les relations entre le phénotype et le génotype. En effet, la forme la plus sévère du syndrome de Turner, ce sont des femmes qui ont le cariotype 45X, et une monosomie homogène 45X. Dans ce cas, le phénotype est plus sévère, à la fois au niveau ovarien, mais aussi au niveau cardiovasculaire. Et donc, on essaye de mieux comprendre les raisons pour lesquelles ces femmes qui ont cette monosomie ont des formes plus sévères que les formes dites mosaïques, c'est-à-dire avec un cariotype 45X, 46XX. Donc, dans la répartition des cariotypes, environ 50% sont 45X et les autres femmes peuvent être mosaïques 45X, 46XX, mais aussi dans certains cas 45X, 46XY. Alors, il est effectivement un peu étonnant de voir qu'il existe dans certains cas du matériel Y chez des femmes ayant un syndrome de Turner. Et là, les recherches à l'heure actuelle ont essayé d'évaluer quel était le risque de gonadoblastome, qui est donc cette tumeur bénigne, mais qui peut, dans 30% des cas, potentiellement dégénérer. Et donc, il a été montré que d'avoir un chromosome Y entier était un facteur de risque important plutôt que d'avoir soit un bras court, soit un bras long du chromosome Y. Donc, il est très important d'évoquer cette problématique parce qu'on peut proposer aux femmes qui ont un syndrome de Turner et qui sont encore réglées d'avoir une préservation ovocytaire, c'est-à-dire qu'elles congèlent des ovocytes pour préserver leur fertilité ultérieure. Donc évidemment, avant de discuter une gonadectomie, il est très important d'avoir évoqué la possibilité de la préservation ovocytaire. Donc la recherche, elle est à la fois dans le phénotype, dans le génotype, quels chromosomes sont liés d'une part aux maladies vasculaires, mais aussi aux maladies ovariennes. Et donc, l'autre point important, c'est que ces femmes doivent être suivies tout au long de leur vie Et pas seulement en pédiatrie où on leur donne de l'hormone de croissance le plus souvent, mais même à l'âge adulte, ces femmes, elles doivent avoir des bilans réguliers, gynécologiques, mais aussi, comme on l'a évoqué plusieurs fois, cardiovasculaires, thyroïdiens, glycémiques, des audiogrammes, des ostéodensitométries, des bilans hépatiques. Donc le suivi peut être assez lourd, est considéré comme lourd pour certaines patientes, mais il est très important de les suivre au long cours pour éviter des pathologies qui pourraient être sévères.
Eh bien, merci mille fois, professeur Christin Maître, de nous avoir fait mieux connaître l'aspect gynécologique de cette maladie rare qu'est le syndrome de Turner. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite!